RCF.
Nos aînés sont à l'honneur ce matin à l'occasion de la Semaine Bleue, une semaine pour changer le regard de notre société sur l'âge. On en parle avec vous Edmond Jean Menoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association Alerte qui défend le bien vieillir ici en Isère. Aujourd'hui en France, 21,5% de la population a plus de 65 ans, ce sera un quart en 2040. Les questions posées par ce vieillissement de la population, elles sont nombreuses, mais j'aimerais d'abord qu'on commence par celle de la santé, si vous le voulez bien. Est-ce que la France, aujourd'hui, est assez préparée à prendre soin de ses aînés et de ses futurs aînés, à l'heure où on parle de déserts médicaux qui touchent aussi bien les villes que les campagnes? Est-ce qu'on est prêt à accueillir et à répondre à ce futur besoin et même au besoin actuel qui se fait déjà sentir?
La réponse est bien évidemment non. Quand on regarde l'évolution de la société par rapport à l'évolution de la prise en compte des problèmes qu'elle a à gérer, en général, la réponse est toujours non. Sur la santé, c'est le plus criant parce que c'est ce qui nous préoccupe le plus au jour le jour. Nous avons mené un combat qui avait d'ailleurs été relayé par votre radio sur les urgences à l'hôpital. Mmh. On dirait que le problème n'est pas réglé, c'est pas le plus grave, c'est qu'il est toujours pas appréhendé. On ne se donne pas les moyens aujourd'hui de régler les problèmes qu'on a à régler. C'est ça qui est préoccupant. On a une sphère que certains disent technocratique, mais qu'on peut appeler autrement, hein, qui réfléchit un peu en vase clos, indépendamment des problèmes que les gens rencontrent au jour le jour. C'est ça qui est préoccupant.
Vous voulez dire qu'on en est toujours à l'heure de la réflexion et du constat au lieu de trouver des solutions?
Oui, c'est ça. Et c'est ce sur quoi on essaye de faire évoluer, nous, les gens, à l'occasion de cette Semaine Bleue. C'est de dire, la société change, elle est en train de vivre des heures qu'elle n'a jamais connues dans son histoire, l'humanité, avec une pyramide des âges qui se transforme en toupie des âges, et les gens n'en ont pas conscience, et en tout cas, ils n'ont pas conscience des conséquences. C'est-à-dire qu'on va d'une société qui est organisée d'une certaine façon, en gros, depuis 1945, avec des administrations organisées, en gros, de la même façon depuis 1945, et on est en 2025 avec une pyramide qui s'est retournée, et on n'en prend pas la mesure. C'est ça qui est préoccupant et qui pose des problèmes au jour le jour, quelquefois humainement difficiles à supporter, que ce soit aux urgences, à l'hôpital, ou en ce qui concerne la place des personnes âgées dans la société. Quand on regarde la façon dont les gens vivent quand ils sont âgés, déjà le mot âgé pose problème quant à la définition, on va pas revenir là-dessus.
Je crois que c'est plus de 65 ans, on est considéré comme âgé, si je dis pas de bêtises.
Quand on fait des sondages, les gens se disent âgés à plus de 75.
Ouais, c'est une question de perception, finalement.
C'est une question de perception, oui. Donc, la façon dont les gens vivent aujourd'hui leur âge, hein, pour ceux qui sont âgés, on va dire les plus de 70, progressivement, depuis 20 ans, ils se retirent de la vie sociale, ils se retirent des associations, et ils se recentrent sur la famille. Ce qui est plutôt bien pour la famille, mais ce qui est préoccupant en termes d'investissement de ce qui va devenir la majorité de la population dans quelques temps. On est dans un phénomène qu'on appelle la transition démographique, avec le rétrécissement des naissances, l'augmentation de la durée de vie. Cette transition démographique va s'achever dans les années en France, on va dire aux alentours de 2060, avec une stagnation durable d'une part beaucoup plus importante de la population âgée. Donc, c'est cette société-là qu'il faut accoucher maintenant et qu'il faut préparer. En sachant que beaucoup de décisions qui se prennent sur la durée. Hein. Aujourd'hui, quand on construit un EHPAD, la durée d'amortissement, c'est 40 ans. 40 ans en 2030, 2070, on est à la fin de la transition démographique. Mmh.
Justement, j'en profite qu'on évoque le sujet des EHPAD, parce qu'il y a une des questions qui est aussi clé quand on parle de grand âge ou de vieillissement, c'est celle du logement ou de l'hébergement, du maintien à domicile aussi, de la perte d'autonomie. On estime que c'est 4 millions de personnes d'ici une vingtaine d'années qui pourraient être en perte d'autonomie. On l'a compris, là aussi, la réponse est non, si je vous demande si on est prêt à ça dans le futur.
Je vais vous prendre un exemple. J'étais dans un EHPAD et où on était en train de préparer la rénovation de l'EHPAD et on avait réuni les familles, les résidents, leur expliquant que dans 4 ans, le projet serait prêt et que dans 9 ans, il serait achevé. C'est pas satisfaisant pour ces gens. Ça veut pas dire qu'il faut que la société ne s'en préoccupe pas, mais les gens, les résidents de l'EHPAD dans 9 ans, statistiquement, normalement, il devrait plus en rester beaucoup. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, en fait, il y a des tas d'initiatives qui foisonnent par-ci, par-là, mais elles foisonnent dans un univers qui permet mal leur éclosion. Bien sûr que les gens vont avoir des visions différentes de leur habitat. Ils souhaitent pas vieillir isolés, mais la solution EHPAD aujourd'hui est conçue comme une solution repoussoire. La majorité des gens en ont peur, soyons honnêtes. Ça ne veut pas dire que les EHPAD sont des choses épouvantables. Il y a des EHPAD qui sont pas bien, il y en a. Mais globalement, on a quand même affaire à des personnels plutôt dévoués, même si il y a de la maltraitance institutionnelle. Tout ça, on peut le répéter, le re-répéter, mais ça changera rien. Mais surtout, les gens ne sont pas prêts à accepter que des propositions se mettent en place. Et notre société a tendance à raisonner sur des solutions déjà pensées, déjà faites. Je pense que l'avenir du logement des personnes âgées viendra des initiatives qui se prennent. Je prends un exemple. En France, il n'existe que deux statuts fondamentaux. Soit on est propriétaire, soit on est locataire. Juridiquement, on peut imaginer toute une série de gradations possibles imaginables. Mais ces gradations se déroulent dans un contexte d'État centralisé qui ne permet pas, en dehors de la loi, l'évolution d'un certain nombre de choses qui sont l'adaptation d'un habitat. Donc on est obligé de passer par des modifications législatives.
Et vous parlez de quelle forme, par exemple, de logement, d'habitat partagé, de maisons ouvertes, par exemple?
Oui, toutes ces expérimentations se déroulent dans des cadres juridiques souvent inconfortables, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ce qui pousse pas non plus à la prise d'initiative, c'est finalement un cercle peu vertueux, on l'aura compris. Vous évoquiez le rôle de la famille tout à l'heure en disant que plus les personnes avancent dans l'âge, plus elles ont tendance à se retourner vers leur famille. Les aidants sont de plus en plus nombreux. Si la population vieillit de plus en plus en France, il y aura aussi potentiellement beaucoup plus d'aidants. C'est un maillon qui est difficile aussi à tenir, qui est pas encore reconnu à sa juste valeur.
Pour le coup, j'espère ne pas tenir des propos trop surprenants. La notion d'aidant est problématique.
Pourquoi ?
En soi. Parce qu'on part du principe qu'il y a d'une part des personnes qui ont besoin d'être aidées et d'autres personnes qui vont devoir le faire. Tout ça dans un cadre à caractère familial ou amical approchant. C'est pas vers ça que nos sociétés doivent aller.
Et vers quoi alors ?
Il y a un exemple que je prends souvent sur une expérience qui s'est déroulée au Danemark sur la façon d'appréhender les difficultés des personnes à domicile. Un certain nombre de gens se sont dit à un moment donné, mais au lieu d'envoyer des aidants, sous quelque forme que ce soit, famille, professionnel, on a essayé d'envoyer des coachs. Ça ne veut pas dire qu'on a supprimé les aides, hein. Ils sont pas fous les Danois, mais on leur a envoyé des coachs en disant, mais hier vous nous avez demandé à votre aidant de changer une ampoule. Mais vous savez qu'il y a des entreprises d'électricité qui peuvent le faire. Ou vous avez un centre social qui peut vous donner des listes. On a des gens qui ont tendance à se reposer. Alors que justement, il faut qu'ils restent en éveil. Donc tant qu'on restera sur simplement la notion « développer les... c'est nécessaire hein. », je suis pas du tout en train de dire qu'il faut supprimer les aidants, ne pas prendre de mesures en direction des aidants, y compris d'un point de vue fiscal d'ailleurs. Peut-être qu'il faudrait encourager ça.
Mais l'accompagner peut-être aussi autrement.
Mais maintenir les personnes en situation d'éveil, on remarque qu'en général, les gens qui gardent des capacités cognitives raisonnables, c'est-à-dire au-delà des simples clichés, disant j'ai oublié des trucs, mais des gens qui gardent leurs capacités cognitives, sont capables de rester seuls.
On est toujours avec vous, Edmond Jeanmenoux, président de l'association Alerte pour défendre le bien vieillir. Les personnes âgées aujourd'hui, vous évoquiez à l'instant le lien social. Elles sont de plus en plus seules et isolées. 750 000 personnes seraient en situation de mort sociale sans aucun contact. Ça, c'est le constat du dernier baromètre des petits frères des pauvres. Je vous propose, avant de continuer, d'écouter Isabelle Sénécal. Elle est membre de l'association dans notre région.
Il y avait 300 000 personnes âgées en situation de mort sociale en 2017. Ça fait 150% d'augmentation en 8 ans. On a retrouvé toujours le même profil. Des personnes avec des revenus modestes. Il y a un lien entre l'isolement et la pauvreté. Des personnes qui sont en perte d'autonomie. Et l'isolement va provoquer une perte d'autonomie précoce. Des personnes qui n'ont pas d'enfants. Donc forcément, ça les isole du cercle de la famille. Et des personnes également qui n'utilisent pas Internet. C'est également très important pour rester en contact.
Edmond Jeanmenoux, est-ce qu'aujourd'hui vieillir, c'est cumuler les difficultés, comme l'évoquait à l'instant Isabelle Sénécal, des petits frères des pauvres, selon vous ?
Oui, oui, elle a raison. Ce qu'elle dit, non seulement est profondément juste, mais en plus, ça souligne la diversité de ce qu'on croit être une population uniforme. Chez les personnes âgées, c'est comme dans le reste de la population, il y a des personnes riches, bien entourées, il y a des personnes pauvres et seules. Le fonctionnement d'une société humaine, son principe, c'est la solidarité. Ceux qui n'en ont pas besoin, bah, tant mieux pour eux, hein. Mais ceux qui en ont besoin, on doit pouvoir développer des choses. Pour ce qui nous concerne, on n'a que des initiatives modestes. On fait ce qu'on appelle les cafés des âges. On fait se réunir autour d'un café, d'une bière ou d'un citron pressé. des personnes âgées avec des personnes jeunes, voire très jeunes. Et puis on discute durant une après-midi. Et c'est une manière pour la population de jeunes de se rendre compte de ce dont sont capables des personnes âgées. L'expérience qu'ils apportent, ça les effare un peu souvent. On se dit, ah oui, ça vaut tant de choses que ça. Bah oui, ils ont mis 80 ans, les mains emmagasinées, donc forcément, ils en savent. Et puis, d'un autre côté, les personnes âgées, bah, elles, de leur côté, bah, découvrent les attentes d'une population qui n'était pas du tout leur attente au même âge. C'est une des façons de résoudre ce problème de lien social. Ce phénomène, si on le laisse tel quel, il s'empirera.
C'est d'ailleurs le rôle de cette semaine bleue, en partie. Finalement, cette difficulté, cet isolement, cette difficulté à planifier les questions de santé, de logement, à prendre en compte la parole et la situation de la diversité des situations des personnes âgées dans notre pays aujourd'hui, ça dit finalement beaucoup de notre rapport culturel aussi, peut-être, avec le fait de vieillir. On n'a pas envie de le planifier, on n'a pas envie de regarder ça, on le met un petit peu sous le tapis.
Oui, en même temps, il y a pas mal d'inexpérience là-dedans. Quand je suis né, je le dis souvent, je suis né en 1951, j'ai donc 73 ans, ce qui est encore jeune.
Ce qui est encore jeune.
Déjà vieux, mais encore jeune. Quand je suis né, l'espérance de vie était de 67 ans. J'ai déjà dépassé le cadre. Donc, ce qui est important de se dire, c'est que les gens ne sont pas spécialement de mauvaise volonté, mais la société est inexpérimentée dans ce domaine. Mmh. Ma génération fait partie des générations qui expérimentent la vieillesse à grande échelle.
Mais là, de ce qu'on se dit depuis le début de cet entretien, on est plus sur de l'expérimentation que sur des... On paye un peu les pots cassés, quoi. On essuie un petit peu d'être la première génération à vivre tout ça.
Oui, c'est pas si désagréable que ça. À titre personnel, j'entends. Socialement, il y a des catastrophes. C'est un moment où on peut trouver des solutions innovantes. Du coup, Alerte 38 à laquelle je participe, c'est une expérience intéressante. On se dit pas, c'est sans solution. Bien sûr que le monde n'est pas toujours très rose, mais est-ce qu'il l'a jamais été complètement? Et ce phénomène sur lequel il y a beaucoup d'inexpérience de nos sociétés est un phénomène extrêmement intéressant à appréhender. Après, il y a des moments où il faut savoir aussi ne pas accepter l'inacceptable. Mmh. Il n'est pas tolérable que l'on ne se donne pas la peine d'appréhender, je dis pas de résoudre, hein, je dis bien d'appréhender le problème de l'attente des personnes âgées aux urgences. Il y a d'autres choses qui sont pas concevables, comme laisser des gens seuls, qu'ils soient vieux ou pas vieux d'ailleurs, hein.
C'est d'actualité, on l'a un petit peu évoqué. Un nouveau Premier ministre qui vient de tomber, pas de visibilité pour un budget l'année prochaine. Un budget qui s'annonce de toute façon contraint par la situation économique. Ça, c'est ce qu'on entend à longueur de journée. En 4 ans, le dossier des personnes âgées est passé entre les mains de pas moins de 7 ministres différents. Qu'est-ce que ce contexte-là vous évoque alors qu'il y a un vrai besoin d'appréhension, de planification? On l'a compris avec tout ce qu'on se dit depuis le début de cet entretien.
Oui, vous évoquez 7 ministres, on pourrait rajouter les présidents de la République. 7 lois grand âge qu'il faudrait faire.
Qui est promise depuis des décennies.
C'est presque... Je sais pas si on va être un jour capable, dans une durée un peu rapprochée de faire quelque chose de sérieux dans ce domaine. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire. Alors, je parle pas trop au nom de l'association, là, mais je fais pas partie des gens qui disent « à brève échéance, on va trouver des solutions financières, ça va être compliqué, ça va être difficile, ça joue sur le temps long ». Par contre, il y a toute une série d'initiatives qui sont possibles. La vie sociale, elle existe. La vie ensemble, elle existe. Et il est à la portée des pouvoirs publics locaux, régionaux, départementaux et de l'État, de faire en sorte que cette vie soit plus sympathique. Ça, c'est pas impossible. La culture dans les EHPAD, c'est pas une chose hors de portée financière. Le fait de pouvoir organiser des sorties, ce que je suis en train de vous dire, bah, je pense qu'on le partage, pour beaucoup de gens, on le partage, mais ceux qui vont nous écouter disent « Ouais, mais avec Alerte, vous allez faire quoi pour que ça s'améliore ?» Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des initiatives pour faire passer nos messages. On a par exemple fait un spectacle de cabaret avec des résidents d'EHPAD. Il y avait 250 personnes le jour de la première et on a passé un moment dans l'EHPAD assez vivant. Voilà. C'est une initiative que les gens apprécient. On en a profité pour dire que les moyens, les conditions de travail, etc. Mais d'abord, on a fait le spectacle. Et les gens se sont trouvés dans une situation différente que celle qui consiste à dire le repas est pas servi à bonne température, ce qui est quelquefois vrai. La prise en charge est pas toujours au top, ce qui est quelquefois vrai. Mais ça nous empêche pas de faire pendant 4 mois dans les pas de la fiesta autour d'une pièce de théâtre.
Et c'est important aussi, d'ailleurs.
Et c'est important. Dans une période où les moyens vont être rares, on peut toujours râler. Moi aussi, on râle, officiellement. On dit qu'il n'y a pas assez de sous et on le maintiendra. Mais je ne vois pas l'État accoucher de solutions rapides dans les 3-4 ans qui viennent. Or, à l'échelle d'une personne âgée, 3-4 ans, ça peut être essentiel. Ceux qui ont mon âge se disent on a encore le temps d'attendre, de moins en moins. Puis plus on avance, moins on a le temps d'attendre. Mmh. Et plus il faut que la vie reste en place dans notre vie. C'est ce que disent les petits frères des pauvres. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut laisser les gens dans leur coin.
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos auditeurs pour qu'ils prennent conscience aussi peut-être de ce qu'ils pourraient faire pour mettre leur petite pierre à l'édifice?
Je leur dirais, battez-vous sur les sujets qui vous intéressent. C'est ce qu'on va faire, nous, Alerte. On est en train de sortir une plateforme qui a pour but de rappeler nos objectifs généraux, mais aussi de déterminer des points sur lesquels une bataille que l'on peut gagner est possible. Je prends un exemple qu'on va dire à la métro. Vous ne savez pas assez que tous les médecins responsables, tous ces médecins disent, les territoires sont en concurrence. Le territoire de Grenoble va être en concurrence avec d'autres secteurs comme Lyon. Si on ne prend pas garde à faire en sorte qu'on ait une politique de territoire d'accueil du personnel de santé, on va se retrouver à moyen terme sous-doté dans notre métropole. Nous pensons qu'il faut que les élus, que la population ait une voix qui s'exprime pour dire « facilitons la vie au personnel de santé qui s'installe. Encourageons les étudiants à venir étudier à Grenoble. Organisons les écoles qui forment les cadres de santé de manière la plus attractive possible. Il faut que ces métiers-là, qui sont des métiers d'avenir, puisqu'il y aura toujours des besoins, que sont des métiers d'avenir, soient des secteurs où on est plutôt à l'aise dans notre département et dans notre métropole. C'est un exemple. Battez-vous pour des choses que l'on peut réaliser.
Battez-vous, ce sera un très joli mot de la fin. Edmond Jean Menoux, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Alerte en Isère.
Merci beaucoup.